tout de suite, c'est un énervé électronique avec ce soir pour en parler cinq invités. Alexis Bernier est directeur de la publication de Tsugi. Chloé est compositrice, DJ de musique électronique et fondatrice du label Lumière Noire. Jean-Yves Leloup est journaliste, DJ, artiste sonore et commissaire de l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk. C'est à la Philharmonie de Paris. Arnaud Robotini est DJ compositeur. C'est à lui qu'on doit la musique du film 120 battements par minute. La musique qui sera donnée en version concert Printemps de Bourges. Et enfin, Marion Guilbeault est avec nous. Elle est journaliste, vous la connaissez. Elle est programmatrice ici à France Inter. La présentation est faite, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, rebonsoir ou bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est le Énervé la suite ce soir, version électro. Mais si, ça va s'entendre et se voir. Demain, concert avec orchestre de la musique électronique d'Arnaud Robotini pour le film 120 battements par minute. C'est au Printemps de Bourges. Et puis, depuis début avril, une exposition, c'était la Philharmonie de Paris. L'électro entrerait-elle dans son ère classique? On fête les 40 ans de cette musique, au passage, les 30 ans de la techno. Alors, bien sûr, on peut refaire l'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui anime cette musique? Vous êtes prêts, Christophe Bourseiller?
Presque, oui.
Alors, énervé la suite ce soir, on branche les platines.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller.
Vous voyez, Laurent, moi aussi, je suis venu avec des musiques électroniques. Alors, entendez-vous Laurence Émile Zozio chantant le crachotis du vent, le rauque allaitement de l'eau? Oui, Laurent, c'est la nature, la simple nature captée par Chris Watson. Et là, je vous le donne en mille, Laurent, qui est Chris Watson? La plupart des gens autour de cette table le connaissent. Il fut un porte-étendard, un porte-avions, un destroyer, un cuirassier des musiques électroniques. En 1973, il a cofondé avec Richard Kirk et Stephen Malinder un des groupes électro-indus les plus originaux du moment, qui s'appelait Cabaret Voltaire. Et avec Cabaret Voltaire, il explora naguère la palette des sons électro jusqu'à en faire le tour. Et figurez-vous qu'un jour, Laurent, Chris Watson, il en a eu ras-le-bol de l'électro. Il a débranché les synthés, éteint les boîtes, coupé les vocodeurs. Et bien justement, les musiques électro, aujourd'hui, elles ont au minimum 40 ans, l'âge de raison. Enfin, en tout cas, c'est la date que donne l'exposition de la Philharmonie. Quand Watson a démarré, il n'avait pas 20 ans, il s'inscrivait dans une génération, celle de la New Wave. Et nous voici en 2019, et doit-on se déconnecter? Jean-Yves Leloup, on vous connaît pour de nombreux travaux expérimentaux. Moi, je pense à Radio Mental, que je mets particulièrement, entre autres. Vous êtes le commissaire de l'exposition électro à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août. Quand on fait une exposition sur le cubisme, on en déduit en général que le cubisme est une affaire close. Et l'électro, s'agit-il d'un courant qui a fait son temps ou est-il encore vivant, selon vous?
Ah, il est encore vivant puisque l'exposition est là aussi pour le montrer. Et puis l'électro, c'est un terme très générique qui veut pas dire grand-chose.
Ça rassemble. C'est ça le problème. Ça rassemble. D'où le débat de ce soir.
Oui, mais dans les musiques populaires, vous savez, on n'est pas dans un dictionnaire. La musique sérielle, la musique dodécaphonique, elle a une définition précise. Mais bon, voilà, c'est la pop, le rock, l'électro, tout ça, c'est un peu vague, mais ça rassemble. Là, précisément, plutôt pour notre exposition, des musiques de danse électronique qui ont pour racine d'abord la disco, la house et la techno, et qui sont encore très vivantes aujourd'hui. Et puis faire une exposition, c'est pas enterrer une culture, c'est aussi montrer, enfin de mon point de vue, sa vitalité. Donc aujourd'hui, il y a des artistes encore très très jeunes ou enfin en pleine activité qui font partie de cette exposition. On a en face de moi Chloé.
Il y a un
très beau clip réalisé par Ludovic Houplin de H5, qui est vraiment une merveille et qui est dans un des programmes. Et puis même les plus anciens de cette exposition, Kraftwerk ou Daft Punk, bon, ils sont encore en pleine action. Ou Jean-Michel Jarre aussi, qui a sorti un album récemment.
Donc Kraftwerk
qui se produit régulièrement dans les musées aujourd'hui et plus simplement dans les salles de concert. Donc tout est raccord. Quand on vous a proposé, quand on vous savez que vous allez être exposé dans un musée, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Chloé, que c'était foutu?
Non, mais déjà, c'est Jean-Yves Leloup. Donc, ouais. En fait, on se côtoie et on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on a tous grandi, évolué dans la musique électronique, et ce, depuis les débuts. Donc, voilà, ça vient pas de n'importe qui non plus. Et en plus, c'est la Philharmonie de Paris. Donc, oui, ça, c'est prestigieux que d'y être.
Elle se renouvelle, la musique électronique, Alexis Bernier, ou est-ce que finalement maintenant c'est une musique qui vieillit avec ses grandes figures?
C'est une musique qui vieillit avec ses grandes figures et qui a aussi plein de jeunes pousses qui font des choses tout à fait intéressantes. Mais c'est vrai, on va pas se mentir, même s'il y a une actualité, même s'il y a plein de choses, même s'il se passe des choses extraordinaires, je pense pas qu'il y ait eu de grande révolution depuis.
C'est comme pour le rock,
quelques années. Voilà.
On regarde.
Moi, je suis vieux. Alors, ça m'arrange cette situation. D'avoir passé la quarantaine et de pas être un gars et d'avoir un public qui pourrait être mes enfants. C'est plutôt une situation plutôt agréable. On n'a pas ce que beaucoup d'artistes ont vécu dans l'histoire du rock en général, c'est-à-dire de passer la trentaine, être complètement ringard et être balayé par la vague qui suit le mouvement dans lequel ils étaient inscrits. Donc moi, je suis assez à l'aise avec ça. Et effectivement, il y a plein de jeunes artistes, mais d'un point de vue stylistique, voilà, les choses. Mais justement, les choses sont fixées. C'est un peu comme après, bon, l'électro ne veut rien dire, mais dans les sous-styles qu'on peut pratiquer dans la musique de danse populaire, tous les styles sont hyper figés. C'est comme le reggae. Dès qu'on va changer un ingrédient, c'est plus du reggae. C'est voilà. Eh bien, pour la techno, c'est un peu la même chose. Si on vise un style de techno, on se met dedans et voilà. Et le moindre changement fait que ça devient autre chose ou que ça n'est plus. Un produit pur.
Moi, je me demandais par rapport à. C'est une question que je peux poser à Chloé et à vous aussi, Arnaud Rebottini. Justement, par rapport au matériel avec lequel vous composez, avec lequel vous jouez, quand il arrive un nouveau logiciel ou des nouveaux effets, est-ce que ça modifie, ça peut pas modifier, ouvrir
et
autre chose?
Et faire évoluer en effet la
qualité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux outils.
Ah bon?
Il n'y a pas de nouveaux sons, en fait. Il n'y a pas de. Je dis souvent que la musique évolue avec la technologie et les drogues.
Il faut une nouvelle drogue. Alors,
soit une nouvelle technologie. Et là, en fait, on a et des événements sociaux aussi. La drogue en étant liée avec ce qui se passe d'un point de vue sociétal. Mais comme on reste sur la même chose que finalement la fin des années 80.
Ah ouais.
Que les instruments qu'on nous propose sont souvent soit des émulations des sons des années 80 toute l'histoire de la musique elle part des années 50 du fait que n'importe quel plouc du sud des États-Unis peut aller enregistrer un 45 tours et jusqu'à arriver au laptop aujourd'hui où n'importe quel plouc de partout dans le monde peut se mettre à produire de la musique électronique en ayant accès au son parfait, c'est-à-dire au son qui ont fait cette musique et qui était à un moment inaccessible du fait soit du prix des synthés, soit du prix du studio.
Alexis Bernier, ensuite Chloé, oui. Alexis Bernier, vous êtes d'accord avec cela?
Dans l'histoire de la musique électronique, c'est assez compliqué parce qu'évidemment, Christophe disait qu'elle avait presque 40 ans tout à l'heure, c'est évident, il y a plein de pionniers, il y a plein de gens qui. Mais il y a quand même un instant zéro, il y a quand même un instant T qui est, j'ai envie de dire, celui de la drogue, quoi, tout simplement, l'ecstasy. Qui a permis à beaucoup de gens, je sens Jean-Yves qui frémit.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'entrée ecstasy dans la philharmonie, c'est bizarre. Ça manque.
Je suis pas certain que ça manque tant que ça. Il y a quand même une image. Mais non, ça a quand même été une rupture, un truc. Il y a pour beaucoup de gens, ça a été une porte d'entrée. C'était pas, on passait pas de la New Wave à Jean-Michel Jarre et puis on arrivait à la techno de Détroit. Non, on prenait de la drogue et on avait 19 ans et on découvrait cette musique et ça a été un choc terrible. Et pour certains qui étaient un peu plus vieux que moi, ça pouvait générer le fait de changer radicalement du jour au lendemain sa manière de vivre et ce qu'on écoutait et ce qu'on faisait. Moi, ça m'a permis juste aussi tout simplement de trouver un job. Alors donc c'est vrai que
la drogue permet de trouver un job. Ne dites pas ça, on est sur France Inter, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Alexis Bernier.
Non mais c'est assez amusant, c'est-à-dire que voilà, il y a effectivement un continuum temporel,
il y a des ruptures marquées par
et je pense qu'il s'est passé quelque chose à la fin des années 80. Chloé,
vous vouliez intervenir mais c'était sur quel mode?
Non, ce que je voulais dire c'est que ce qui a changé, c'est peut-être plus l'accessibilité aussi à cette musique-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique électronique, effectivement, c'était les sampleurs, les synthétiseurs, fallait comprendre le MIDI, c'était l'Atari, tout ça, c'était assez complexe. Et puis, il n'y avait pas les tutoriels sur YouTube ou tout ça. Et puis, surtout, les gens ne comprenaient pas spécialement. Exactement. Donc voilà, après, quand les ordinateurs sont devenus beaucoup plus performants, là, il y a des nouveaux outils qui se sont développés. Comme disait Arnaud, c'est des outils aussi qui reprenaient des vieux synthétiseurs et qui simulaient un peu ces sons-là. Ce qui a changé aussi, donc, quand je parle de l'accessibilité, c'est par exemple, pendant longtemps, l'IRCAM, c'était quand même très fermé. Il y avait ces logiciels qu'il fallait essayer de comprendre, comme MaxMSP ou AudioSculpt et tout ça. Et aujourd'hui, qui sont intégrés à Live Ableton, qui est un logiciel qui permet de faire la musique aujourd'hui. Et beaucoup de gens et de jeunes peuvent faire de la musique sur Live Ableton aujourd'hui.
Alors l'électro, c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux d'en écouter. On vous a demandé à chacun et à chacune de choisir un titre. Et Jean-Yves Leloup, vous avez choisi cela. Demandez des sons fondateurs de votre rapport à cette musique électronique, c'est ce son-là.
Bah, en tout cas, ce musicien Aphex Twin, c'est Window Licker, qui est un peu le sommet de la carrière d'Aphex Twin, une carrière qui démarre au début des années 90. Et ça, c'est un morceau qui sort en 99 ou 2000 et qui clôt en 10 années d'expérimentation, d'invention stylistique et esthétique absolument fondamentale de sa part, mais aussi de plein d'autres musiciens en France, en Allemagne, en Angleterre et dans bien d'autres pays. Et voilà, c'est un morceau qui est resté dans l'histoire, qui n'est pas un morceau vraiment dansant, qui a beaucoup à voir avec la musique de rêve, qui a été l'une des références et l'une des bases de Richard D. James, alias Aphex Twin, mais qui est un des grands étendards de cette musique novatrice. Et c'est aussi un morceau dont parle souvent confrère Laurent Garnier, qui a réalisé la bande son de l'exposition électro à la Philharmonie, parce que pour lui, moi je suis pas d'accord avec lui ni avec certains de mes confrères, c'est le dernier morceau vraiment novateur qui est sorti en 2000, donc c'est à presque 20 ans. Mais la nouveauté, elle est toujours présente aujourd'hui, simplement, elle fait moins école. C'est-à-dire qu'on a plein de démarches de compositeurs qui sont très singulières, mais qui n'entraînent plus dans leur sillage toute une série de labels, de musiciens, ce qui était le cas encore il y a quelques années. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de lire la musique telle qu'elle se produit et se développe dans nos scènes. Et puis, l'innovation aujourd'hui, elle peut se traduire à travers des démarches de couplets avec des musiciens, des artistes visuels venus des arts numériques ou de l'art contemporain, par exemple, dans le développement en Amérique du Sud ou en Afrique, des styles qui ne révolutionnent pas la pratique des instruments, mais qui stylistiquement sont assez novateurs. Moi, je crois beaucoup à l'Amérique du Sud, par exemple. Et puis, aussi d'autres recherches, bien sûr, en dehors de la musique de danse pure et dure. Tout à l'heure, Christophe Bourseiller parlait de Chris Watson. Cette approche du paysage sonore, elle a aussi frappé de plein fouet plein de musiciens qui viennent de la musique électronique.
Il y a un aspect, évidemment, dans les musiques électroniques, c'est qu'il y a une première génération froide avec Kraftwerk et les groupes krautrock, enfin tout ce qui va prendre la suite, Cabaret Voltaire et tout ça. Et puis après, il y a à partir de la fin des années 80, la vague techno, alors qu'elle, qui est une vague, on pourrait dire presque plus chaude, qui est en tout cas une vague qui s'accompagne d'une forme d'héritage du mouvement hippie. C'est-à-dire on prône l'amour, on prône le vivre ensemble, il y a les rave parties qui sont des espèces de Woodstock techno. Est-ce que tout ça existe encore? Ce côté smiley, côté on bâtit un monde meilleur, faites l'amour, pas la guerre.
On n'a jamais autant dansé qu'aujourd'hui en France. Je parle à Paris, dans le Grand Paris, mais dans plein d'autres villes et en Europe. Il y a une scène qui est très forte, très festive, très communautaire justement, avec plein de collectifs qui organisent des soirées dans des lieux parfois totalement singuliers, nouveaux, excitants, en dehors des clubs. Et il y a un message qui est beaucoup plus, encore plus politique et sociétale que par le passé, avec une demande très forte de libéralisation des mœurs et des comportements, aussi une demande d'égalité, de parité, d'équité entre les hommes, les femmes, les trans, les gays, les hétéros
Complètement raccord à ce qui se passe aujourd'hui dans le reste de la société.
Ah oui, les fêtes actuelles offrent un miroir très, très émouvant et très fort par rapport aux situations qu'on peut vivre à l'extérieur.
Vous y allez tous dans ces fêtes en Eurobotanique?
Pour travailler, oui. Parce qu'on, comme on, avec Chloé, on tourne beaucoup, j'imagine que quand tu t'as pas de date, tu vas pas en club.
Non, voilà.
Ouais. Ah oui, d'accord, c'est que pour le travail.
Ça nous rappelle le bureau, c'est comme
c'est plutôt pas mal comme travail.
Oui, voilà.
Depuis Düsseldorf, ils ont été les pionniers du genre, les robots humains, malgré tout, de Kraftwerk. C'était votre choix, Marion Guilbault, mais aussi celui de Jean-Baptiste Audibert.
same. She's looking good for beauty we will pay.
J'adore les effets de réverbération. Marion Guilbeault, c'est vous qui aviez choisi ce titre, ou presque
non,
d'ailleurs.
Pas ce titre, j'ai choisi ce groupe, j'ai choisi Kraftwerk parce que bah, moi c'est vraiment une madeleine. Hein. C'est mon père qui avait acheté le vinyle.
De 1978.
Non, cet album, enfin The Model c'est 1978 et moi le disque qui a vraiment été fondateur pour moi c'est Radioactivity. C'est 1975, mon père l'a acheté quelques années après parce qu'il n'était pas non plus méga pointu. Mais quand même à l'époque il l'achète en vinyle, je me rappelle de cette pochette voilà, noir et blanc. Et moi, j'ai tout de suite été séduite hein, par ce son. C'est très, bah, à l'époque, c'est très mystérieux. C'est très évocateur aussi. On peut s'imaginer plein de choses quand on est gamin, qu'on n'y panne pas grand-chose encore à la musique. Et voilà, il y avait un côté aussi un peu transgressif. Moi, à ce moment-là, je commençais déjà à écouter beaucoup de musique. Et pour moi, c'était presque un groupe punk, en fait, Kraftwerk. Ça m'a fait exactement le même effet quand après, je me suis mise vraiment à écouter la musique qui, moi, m'a définie, qui était le punk.
Je peux dire un mot pour compléter oui. ce que dit Marion. Moi, j'ai découvert Radioactivity quand je l'ai acheté à l'époque, quand il est sorti. Et je me souviens que je l'ai acheté parce que je suis allé voir une pièce de Patrice Chéreau. C'était Loin d'Agondange. Et c'était l'histoire de deux vieux mineurs qui mouraient. Et pendant qu'ils mouraient, ils mettaient la radio et il y avait la musique du monde nouveau. Et ils étaient là, ils comprenaient plus rien à ce monde. Et la musique, c'était Kraftwerk Radioactivity.
Pour tout le monde, c'est fondateur ou pas?
C'était le futur. Et c'est leur musique, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont imaginé que des robots allaient faire de la musique entièrement électronique, et ça devienne la norme. Et c'est ce qui est le cas actuellement, en partant d'une musique de hippie, parce que le krautrock, l'autre partie du krautrock, c'est pas Faust. Du tout ça. C'est Faust, même Tangerine Dream, Neu, c'est Popol Vuh. C'est très, tout ça est très différent de Kraftwerk. Quand on écoute les premiers albums, on voit bien le point de départ commun, mais leur bifurcation est totalement visionnaire.
Ils sont venus voir l'exposition.
Ah bah bien sûr, parce qu'ils ont participé.
Ils sont
présents dans l'exposition.
Qu'est-ce qui les a intéressés? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir eux?
Ralph Hutter, c'est surtout Ralph Hutter qui est vraiment le groupe était surtout basé sur un duo, sur un binôme. L'autre, Florian Schneider, a pris sa retraite.
Disons que Ralph a réussi à virer tout le monde.
Voilà, ça au moins, il n'y a pas de langue de bois. Merci.
Alors,
Alexis Bernier.
Mon ami Ralph Hutter, maintenant, est venu. D'abord, il a été très sensible au projet de l'exposition, oui. comme d'autres artistes. Et donc, ce qu'il voulait, lui, c'est montrer le résultat de son travail et non pas de montrer des instruments ou des robots comme on a pu lui proposer au début. Donc, c'est une série de vidéos en relief et en son surround qui sont vraiment très belles, avec parfois cette imagerie de technologie, de futurisme un peu désuet qui marque certains clips. Qui ont accompagné toute leur carrière et qui résument en fait cette salle de cinéma où les gens font la queue en ce moment là pour aller le voir, donc avec des lunettes en 3D. Ça s'appelle The Catalog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et c'est 8 albums qui résument sa carrière et son œuvre et qu'il présente et qu'il réorchestre, réarrange de manière continue depuis le début de sa carrière. Et voilà, il veut montrer tout ça. Tout simplement le résultat de ce travail-là, de ce qu'il appelle sa
Gesamtkunstwerk. Hein. Oui, c'est ça, c'est la Gesamtkunstwerk.
Oui, voilà, c'est ça, l'œuvre d'art totale. Et ce qui était important pour lui, c'est d'être aussi intégré à une scène. C'est pareil pour les Daft Punk ou pour d'autres, de faire partie de cette scène-là, de ne pas être trop mis en avant par rapport aux autres et de participer, on va dire, démocratiquement ou avec une certaine équité avec les autres artistes. Ça, c'était très important pour eux aussi.
Anna Robotini, voici le son que vous avez choisi, vous. Pas mal parce que c'est vrai que j'aurais pas du tout pensé à Cette musique-là, qu'est-ce qu'on écoute?
Herbie Hancock, ouais. Caméléon, donc c'est la période jazz, funk, jazz rock d'Herbie Hancock. Donc Herbie Hancock ne croyait pas, n'aimait pas du tout les synthés au début. C'est Miles Davis qui l'a poussé à utiliser les synthés et il est devenu l'incarnation du, enfin, entre autres, des jazzman qui ont fait, qui jouaient du synthé. Et pour moi, c'est un disque que je l'ai écouté des milliers de fois. Enfin, je crois que je peux chanter toutes les parties par cœur. Et ça m'a marqué déjà sa façon de jouer très mécanique et en même temps très, très féline. Et puis surtout, je me souviens, adolescent, Rock It, de cet homme virtuose total qui abandonne sa virtuosité pour aller vers quelque chose de complètement mécanique. Et pour moi, c'est une porte d'entrée, c'est ma porte d'entrée dans la musique, justement, de cet affranchissement du jeu au bénéfice de la mécanisation et du côté informatique de l'exécution de la musique.
Vous n'étiez pas pour ce choix, Christophe Bourseillet?
Non,
vous
mais l'avez je contesté. N'ai rien contre la chaleur.
Vous l'avez contesté au bureau.
Non, je pense que je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette un morceau froid, glacé, glacial, faire souffler un peu de blizzard, parce que je préfère les musiques froides. Donc, évidemment, je respecte totalement cette école. Il y a eu Prince, il y a eu beaucoup d'autres créateurs.
D'ailleurs, j'ai découvert récemment que Herbie Hancock jouait sur un album de Simple Minds. Il joue sur New Gold Dream.
Qui n'était pas le meilleur groupe, faut bien le reconnaître.
Oui. Ah, le début est
pas le meilleur Christophe. Album.
Comme dit oui, en plus, là.
On dirait une limande.
Alors ça, je l'assume pleinement. Alors là, c'est une limande en érection.
Oui, quoi, oui.
Une limande alors, en pleine forme. Oui, une huître en pleine forme.
Human League.
Qui se jette vers le futur en abandonnant son rocher. Oui, alors Human League, tout simplement, parce que ça a été un souvenir d'enfance. Une ma Madeleine de Proust, je suis allé à Londres. Je les ai vus en première partie de Suxy and the Banshees. Et alors, je dois dire, cette chanson, Being Boiled, c'est un 45 tours que je garde précieusement depuis, dans un cadre. Et c'est un hymne au végétarisme, ce qui est assez curieux, parce qu'on est quand même à une époque, la New Wave, où on encense évidemment le McDo, on encense la fast-food, plus c'est mauvais, plus c'est bon. Et là, non. Là, il y a cet amour, de la nourriture macrobiotique, et puis cette musique formidable, Human League, le premier album. Après, ça s'est dégradé très vite, mais le premier album était, à mon goût, extraordinaire.
Juste une question, comment on explique qu'en France, la culture électro soit blanche, alors même qu'à l'origine de la musique électronique, qui vient quand même des clubs noirs de Chicago et de Détroit, donc c'était plutôt une musique de ce côté-là.
Oui, comment mais c'est parce qu'ils ont écouté de la musique de blanc qu'ils ont fait cette musique-là. Kraftwerk, Trans-Europe Express, Planet Rock, Africa Bambaataa, ce qui est une reprise.
Extraordinaire morceau.
Ah oui, les deux, là, c'est. Et qui est une reprise. Les breakdancers, parce que avant la techno, c'est le hip-hop. Hein, et le hip-hop qui était. Il y avait une partie instrumentale. Il y a des artistes qui sont communs. Erwan McLean, Cibotron, qui est un des. Erwan McLean, c'est New York, mais.
C'est toujours aussi blanc quand même?
Non, bah.
Aujourd'hui, il y a un artiste comme Kiddy Smile, qui n'est pas du tout blanc et qui, fait revivre en France aujourd'hui l'esprit de la scène new-yorkaise, du voguing, et même de Chicago, avec beaucoup de talent. Et je suis très, très content qu'un artiste comme lui.
C'est après, il y a une appropriation des Afro-Américains de cette musique qui vient d'Europe au départ, qui est une vieille histoire.
Mais en Europe, elle est restée blanche.
Le vieux ping-pong qu'il y a entre l'Angleterre ou l'Europe et les États-Unis depuis l'invention du blues. C'est une interprétation par des exilés de musique européenne. On pourrait
pareil, reprendre. Après, je suis pas sûr que la musique électronique européenne soit uniquement froide. Il y a tout un courant de deep house, même en Allemagne, qui fait des choses parfaitement chaleureuses, parfaitement dansantes.
Et puis la French Touch n'était pas un courant froid.
Et la French Touch n'était pas un courant froid. Donc, non, c'est
La French Touch, en réalité, elle n'existe pas.
Ah, ça.
Ah, ben voilà.
Ah, voilà un scoop.
Tu viens de relancer le débat, là.
Et pour quelle raison? Le débat est en train de dévier.
Il
n'y
a aucune cohésion dans les 3-4 groupes qui sont emblématiques de cette scène-là.
La définition. Peut-être redéfinir, c'est quoi la French Touch?
Avec Chloé, qui est la pédagogue de la soirée.
Justement, je n'ai pas de définition à donner, mais la première question est à se poser. Qu'est-ce qu'on a appelé la French Touch?
Ce qu'on a appelé la French Touch, je suis complètement d'accord. En effet, il n'y a aucun rapport entre les sons des différentes parties qui ont œuvré à cette époque-là. Moi, je la date plus comme une époque dans la musique, en fait. C'est plus,
exactement.
Voilà, le milieu des années 90 en France, où il y a plein de musiciens qui arrivent chacun avec leur son, leur esthétique, et d'un seul coup, on se met à les appeler la French Touch. Voilà, et qui s'impose aussi
sur la scène internationale. Ce qui n'était pas le cas quand même.
Mais d'un point de vue stylistique, ça n'existe pas. D'autant que ceux qui ont marché sur la scène internationale, à part R, finalement, faisaient de la musique de Chicago, hein, sans DJ Sneak.
Ils sont dans l'exposition, Jean-Yves Leloup?
Les Daft Punk, oui, oui, bien sûr, ils sont dans le sous-titre et ils ont participé activement à l'expo aussi avec une.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté, eux?
Une sorte d'insta. Ah, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ouais. Bah, ils font le lien, alors, dans leur.
Non, mais dans l'exposition.
Ah, ouais. Dans l'exposition, une installation qui s'appelle Technologic Redux, qui est en fait une adaptation, ou une extension d'un clip qu'ils avaient fait en 2004, qui s'appelait Technologic, et dans une chanson qui leur semblait vraiment être cohérente avec les thématiques de l'expo, notamment le rapport à la technologie, les figures de robots. Et donc, il y a trois robots dans leur sorte d'installation décor, et notamment un petit robot qui chante a cappella Technologic, qui est leur tube de 2004, et qui est un robot qui...
C'est bien.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est vous.
Et ce petit robot, en fait, alors, pour la petite histoire, c'est celui de Chucky. Chucky, c'est une série de films d'horreur avec une poupée.
Oui, la poupée sanglante.
Oui, la poupée sanglante, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un studio d'effets spéciaux de Hollywood qui a refabriqué pour nous ce petit robot et qui est à la fois très humain, qui fait un petit peu peur. Mais on rentre dans cette installation comme dans un univers un peu fantasmagorique, parce qu'au fond, les Daft Punk, c'est pas un groupe de musique, c'est plutôt une sorte de fiction, d'histoire, parfois très enfantine, en lien avec la science-fiction et la culture pop, que le groupe raconte depuis ses débuts, le groupe, et aussi avec toute leur petite équipe de directeurs artistiques qui sont très soudés, ils sont ensemble depuis très longtemps et qui créent soit la scénographie des concerts, maintenant les clips ou les films et tout ce qui est autour de ce groupe.
Je vous propose de quitter ce groupe pour rencontrer quatre sœurs à la fin des années 70 dans le Bronx. Elles inventent un nouveau son froid, c'est pour vous, et groove, c'est pour vous Marion, rassemblés sous le nom d'ESG, c'est maintenant dans l'énervé.
Rendez-vous, Laurent Goumard.
Like This, signé ESG dans le NRV. On parle ce soir, on écoute, on respire électro en écho à l'exposition qui vient de s'ouvrir à la Philharmonie de Paris, électro de Kraftwerk à Daft Punk. On en parle avec nos invités Jean-Yves Leloup, Alexis Bernier, Chloé Arnaud Robotini et Marion Guilbault. Juste une question, de quoi parle la techno aujourd'hui? Quels sont les messages, s'il y en a, sur lesquels les gens dansent? Est-ce qu'il y a des propos comme ça a pu être à une époque?
En fait, le propos, il n'est pas dans la musique elle-même, il est dans l'énergie, la dynamique qu'il rassemble autour de la piste de danse ou autour de l'organisation de fêtes, d'événements très particuliers. Aujourd'hui, on a fait tout un texte assez long là-dessus dans le catalogue de l'exposition qui est paru chez Textuel. Il y a plein de jeunes collectifs qui se rassemblent, qui organisent ces soirées-là, mais il y a une volonté d'entraide, de respect aussi, d'autrui, d'écho bien sûr aux questions sociétales et politiques qui traversent la société aujourd'hui. Donc ça s'exprime plutôt dans le faire et dans le une façon aussi de il y a beaucoup d'autogestion aussi, on dit do it yourself, moi j'aime bien le terme d'autogestion, ça nous replonge
dans des années qui vous font sourire, voilà. Manifestement
il y a une volonté un peu de fonctionnement un peu politique, égalitaire, et le message il est plutôt là-dedans que dans les slogans qu'on pourrait entendre dans un morceau qui n'existe quasiment pas.
Et pourtant il y a une question vraiment frappante qui est posée, c'est un son sans mots peut-il dire quelque chose? C'est le dessinateur Frankie Fultz, c'est ça qui...
Alors en fait non, c'est Mad Mike, effectivement. Mad Mike. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est pas une erreur sur le cartel, mais c'est Frankie Fultz aussi qui fait des dessins pour Underground Resistance, et on a mis cette phrase qui était griffonnée en fait à Détroit dans les bureaux de ce fameux collectif Underground Resistance, qui est une phrase de Mad Mike, qui est quelqu'un qui a beaucoup de slogans et de maximes comme ça, que j'ai récupéré, photographié et qu'on a agrandi en fait dans l'expo, parce qu'effectivement il se pose la question de la portée politique d'une musique qui est purement instrumentale.
Instrumentale, bah oui. Alexis Bernier.
Je crois que Jean-Yves va parfaitement résumer les choses. Le simple fait de faire des fêtes clandestines, sans autorisation, en dehors de Paris, sans respecter le moindre chose, c'est déjà un message politique. Après, on peut trouver que c'est dangereux, que c'est pas bien, tout ça. Mais le message, il est effectivement dans la manière dont on fait les choses, peut-être plus que dans la musique elle-même, même si le simple fait de la faire de manière électronique, en s'autoproduisant, c'est aussi un discours politique.
Chloé, vous avez l'impression d'être une activiste politique?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant de très nombreuses années, en fait, on a commencé avec les raves et tout, et qu'il y avait vraiment tous ces messages un peu politiques et qui étaient... qui mettait un peu un pavé dans la mare justement, et ce qui est marrant c'est de voir en fait aujourd'hui comment ces jeunes qui n'ont pas connu les rêves et qui reprennent un petit peu ces codes là alors que pendant des années c'est pas passé grand chose aussi à Paris. Il y a eu toute une époque, je me rappelle, il y a eu les pétitions, Paris est une ville qui dort, et de voir comment en fait ça a complètement changé et comment aujourd'hui donc tous ces jeunes récupèrent un petit peu tous ces codes.
Ça se passe où à Paris?
Très clairement dans le magazine Tsugi dont je m'occupe. Jamais depuis ces derniers mois, enfin on a tous les artistes nous parlent de politique aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10 ans quand on a commencé. Effectivement, il y a en ce moment toutes ces questions de genre, d'oppression, tout ça sont très 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 importantes pour les artistes aujourd'hui.
Alors, faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on le faisait quand même au Pulp.
Oui, bien sûr,
Joins-moi
l'idée de Bill Pulp. Non,
plaque tournante.
Mais justement, ce qui me frappe, c'est que depuis 1998, il y a des technoparades à Paris comme dans beaucoup d'autres villes. Mais finalement, il y a un point commun entre les technoparades et les Gay Pride, c'est la même musique. Alors, quel est le poids de la culture gay dans ce mouvement électro? C'est quand même considérable. Parce qu'on a parlé des blacks, des blancs, mais il y a aussi les gays.
Il est essentiel, puisque, alors précisément, cette musique-là, elle est née beaucoup dans les clubs gays. Moi, je me souviens, en 88-89, écouter de la house, de la techno à Paris, c'était Le Boy, point final. Ou quelques raves, ça commençait à bouger. Donc le Rex, c'était un club de rock. J'ai vu Casse Product et non Jade Vio, j'ai vu là-bas. Enfin bref, bon, bref. Et ça fait partie. C'est une musique de minorité à la base et voilà qui s'est développée. Et donc il reste quand même cette essence. Moi, je trouve d'ailleurs les meilleures soirées à Paris sont souvent des soirées un peu queer. Où on retrouve un peu ce mélange un peu créatif. Après moi je suis pas très à l'aise avec la musique et la politique. Tout ça. Souvent, on est là pour enfoncer des portes ouvertes.
C'est-à-dire que oui, il faut être gentil avec son voisin.
Enfin, voilà, c'est ça.
Enfin, l'exemple, vous avez joué dans le film sur ACT UP, et ACT UP a été vraiment au croisement d'une activité politique remarquable, et puis d'une musique, il faut bien le dire.
Ah, ben, complètement. Je dis souvent dans les interviews que la house, à l'époque, c'était un étendard pour les communautés LGBT, qui s'appelaient pas comme ça à l'époque, d'ailleurs, mais... Et moi, je me souviens du centre gay et lesbien qu'il y avait à côté de Rough Trade. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose. Mais là, il y avait, c'est-à-dire que par rapport à la période actuelle, c'était complètement différent. C'était la lèpre des gays, le sida. Enfin, il y avait tout un truc dans l'imaginaire qui était, enfin, dans la réalité, dans la société, qui était quand même ultra, enfin, qui paraît même impensable maintenant quand on voit où on en est.
Repensons l'actualité avec voilà ce qui se passe sur la scène actuelle. Autant écouter un titre de votre répertoire, Chloé. Androgyne avec Alain Chamfort. Vous allez chercher Alain Chamfort. Vous l'avez trouvé.
C'est le dernier disque.
Ouais. Oui, c'est un titre qui est tiré de mon dernier album. Et en fait, je me suis retrouvée à remixer un de ces titres dans le cadre d'une compilation où plusieurs producteurs de la musique électronique ont remixé un titre et on pouvait choisir un titre. Moi, j'ai choisi Trace de toi, un morceau qui m'avait marqué, voilà, qui fait partie un peu de ces morceaux un peu emblématiques. Donc j'étais ravie de remixer ce morceau parce que quand on fait un remix, on a les parties séparées du morceau. Donc j'ai découvert les chœurs de l'IO. Je savais pas que c'était ses chœurs par exemple. Donc voilà, j'ai mis en avant des choses et tout. Et puis j'ai eu l'occasion, en plus par ailleurs, je le connais. Par ailleurs, parce que pour des raisons plus personnelles, je connais ses enfants un petit peu. Et du coup, on s'est croisés plusieurs fois et j'étais en train de préparer mon disque et je me suis toujours dit, tiens, qu'est-ce que ça peut donner que de proposer à Alain Chamfort, voir que ça pouvait rendre en fait cette collaboration, voilà, par rapport à tout ce qu'il évoquait.
Est-ce que la place des femmes, elle a été plus difficile à prendre dans la techno ou est-ce que c'est finalement comme dans n'importe quelle forme d'expression artistique, c'est aussi une dimension que vous évoquez dans l'exposition, hein.
Oui, tout à fait.
Chloé
essaye d'éviter de répondre à la question qu'on lui pose.
C'est vrai ? Non, pas du tout. Au contraire, je suis ravie d'être là.
Alors allez-y.
Non, j'aimerais bien justement qu'on en parle. Au contraire,
alors, parce
que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui.
Cette place.
Non, mais en fait, moi, honnêtement, j'ai pas été voir l'expo encore parce que j'étais au Japon, j'ai pas été voir. Mais justement, je serais très curieuse de voir quelle est la place des femmes. Et je pense que c'est aussi à l'image. Enfin, je pense avoir au moins un peu la réponse. C'est un peu à l'image aussi de l'histoire de la musique électronique n'inclut pas énormément de femmes, effectivement, mais voilà, comme dans beaucoup de milieux,
oui,
en général.
De formes artistiques.
Et c'est vrai que naturellement, on m'a toujours posé cette question-là. J'avoue que moi, personnellement, j'ai toujours j'ai commencé la musique électronique très très tôt avec les machines à mixer, tout ça, et je me suis jamais poser trop de questions, à me dire, oh là là, c'est... Enfin, bien sûr, il y a cette première étape où on se dit que c'est compliqué, tout ça, mais je me suis jamais dit, oh, c'est un truc de mec ou quoi. Et c'est vrai qu'en voyant les réactions d'autres femmes en train de me voir mixer, qui sont venues me voir en me disant, oh, c'est marrant, en te voyant mixer, je me suis dit que j'allais me mettre à mixer. Et c'est... À la fois, c'est évidemment génial, et à la fois, je trouve ça vraiment tellement triste parce que ça veut dire exactement en fait que la place de la femme n'est pas effectivement représentée.
Et alors dans l'exposition,
oui, on a fait quand même très attention parce que d'abord moi j'ai écrit des articles il y a assez longtemps sur à la fois les pionnières et puis comme toutes ces questions qui traversent la scène actuelle, à la fois pour les figures de certaines pionnières qui sont représentées dans l'expo. On n'a pas essayé d'avoir une parité ou une équité, mais en tout cas d'essayer de respecter.
Faut pas non plus forcer l'histoire.
Non, on ne force pas l'histoire dans les portraits actuels parce que là il y a vraiment une génération de femmes musiciennes, compositrices, ingénieurs du son et DJ qui sont assez importantes. Donc dans les diaporamas par exemple, autant ceux d'Olivier Degors des années 90 ou Jacob Christ dans les années 2010 sont naturellement présentes. Après, il est vrai que Laurent Garnier, il en a mis très très peu dans sa bande son. Je l'ai regretté un petit peu, mais dans bien d'autres places de l'exposition aussi, des artistes, des femmes, des photographes, des vidéastes sont naturellement présente. Voilà, on a fait attention, surtout que la plupart de l'équipe de l'exposition est féminine.
Eh ben, c'est parfait. Vous aurez été vraiment jusqu'au bout. Jean-Yves Leloup, le mot de la fin, il est pour vous peut-être, Christophe.
Alors, le mot de la fin, c'est à Arnaud Robotini. Moi, je trouve la French Touch, en réalité, n'existe pas.
Merci à tous et à toutes. Alexis Bernier, je renvoie vers Tsugi, disponible en kiosque. Chloé, Endless Revision, c'est sous le label Lumière Noire. Et vous serez le 27 avril au 104 à Paris. Jean-Yves Leloup, l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk, c'est à la Philharmonie de Paris. Je signale le catalogue aux éditions textuelles. Arnaud Robotini, j'en ai pas fini avec vous. Concert avec orchestre de la musique de 120 battements par minute, c'est au Printemps de Bourges. Et Marion, on se retrouve lundi avec un autre son, celui des Innocents. Et pour terminer, il fait partie de cette nouvelle génération née avec l'électro, et ça s'entend dans son Rebetiko, Johann Papa Constantino dans le énervé.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras.
Je sais pas à quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat.
J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Les étoiles et le ciel qui jouerait en bas. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps.